VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Début aujourd'hui à la Maison-Blanche d'un sommet sur le nucléaire. Plus de 50 pays y discutent des menaces et des moyens de les prévenir. Une session spéciale sera consacrée aux efforts pour empêcher les groupes terroristes d'entrer en possession de matériel nucléaire. Pour la Maison-Blanche, un des objectifs de ce sommet sera aussi de renforcer les organisations internationales pour qu'elles continuent de travailler sur la sécurité nucléaire dans le monde. La Russie a refusé de faire le déplacement, disant que ces sommets ont déjà fait leur temps. On passe maintenant à l'Afrique. Guinée-Bissau, les djihadistes cherchent à recruter des jeunes dans le pays. Tel est le cri d'alarme lancé par le procureur général de la République de Guinée-Bissau. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Noah Mankali.
Le procureur général de la République de la Guinée-Bissau, Antoine Sédiama, a alerté ce jour à la presse l'augmentation du recrutement des jeunes bissau-guinéens par les organisations terroristes. Antoine Sédiama a expliqué que le phénomène aurait atteint la Guinée-Bissau, mais non pas en termes d'action sur le terrain, mais en ce qui concerne le recrutement par les djihadistes depuis 2012. La directrice de la police judiciaire, Philomène Lopez-Mendes, a révélé l'existence de recrutement des adolescents bissau au Guinée à l'un des camps d'entraînement des groupes terroristes, en particulier à Kidal, dans le désert de la République du Mali. On rappelle que le mois dernier, les autorités judiciaires bissau-guinéennes avaient arrêté un jeune djihadiste mauritanien qui s'était évadé de la prison en Mauritanie où il était accusé de tentative d'assassinat du président de son pays. Noua Mankali Bissau, VOA Afrique.
Toujours concernant la campagne anti-djihadiste en Afrique, au Mali, fin de la cavale du cerveau des attaques terroristes de 2015 dans le sud du pays. Souleymane Keïta a été arrêté à la frontière avec la Mauritanie par les forces de la DGSE, la Direction générale de la sécurité malienne. Avant lui, certains de ses lieutenants avaient été appréhendés en juin 2015 après les attaques de Fakola et Misseni à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Plus de détails avec le correspondant de VOA Afrique à Bamako, Kassim Traoré.
L'homme le plus recherché au Mali, après les attaques terroristes et djihadistes de Fakola et Misseni à la frontière Mali-Côte d'Ivoire, a été arrêté. Il s'agit de Souleymane Keïta qui était en cabale depuis le 19 février 2015. Il est le numéro 1 de la Katiba Ibn Walid ou Ansardine du Sud. En juin 2015, deux de ses lieutenants avaient été arrêtés après les attaques de Fakola par la force spéciale malienne dans la forêt de Sama. Parmi eux, il y avait l'informaticien du groupe qui détenait beaucoup de téléphones portable. Souleymane Keïta était recherché. C'est le mardi 29 mars 2016 qu'il a été arrêté par une unité de la force spéciale malienne dans la forêt de Ouagadou, à la frontière Mali-Mauritanie. Il tentait de rejoindre Iyad Agali, son patron, dans le nord du Mali. Souleymane Keïta, le patron de la Katiba Ibn Walid et ses hommes sont à la base des attaques terroristes à Bamako et dans le sud du Mali. Il avait séjourné en Guinée-Conakry, Sierra Leone et en Gambie avant son arrestation à Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et toujours concernant cette campagne anti-djihadiste, entretien hier ici à Washington entre le secrétaire d'État américain John Kerry et une délégation ministérielle nigériane. La lutte contre les islamistes de Boko Haram a été l'un des principaux sujets de discussion. Félix Yepassi-Zembrou.
Le chef de la diplomatie américaine a réitéré le soutien de Washington aux autorités nigérianes, dénonçant le lavage de cerveau auquel se livrent les islamistes nigérians pour persuader les jeunes gens et jeunes filles, et même des fillettes, de se faire exposer dans les marchés. Cela doit cesser, a-t-il martelé. Selon le secrétaire d'État John Kerry, le Nigeria, sous le président Muhammad Buhari, a réalisé d'importants gains dans la lutte contre ce groupe terroriste. Boko Haram n'en demeure pas moins une sérieuse menace régionale, a souligné le chef de la diplomatie américaine.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Cap sur l'Afrique australe et centrale, maintenant Afrique du Sud. Le président sud-africain Jacob Zuma a subi un revers cinglant aujourd'hui suite à un arrêt historique de la plus haute instance judiciaire du pays. La Cour constitutionnelle l'a reconnu coupable d'avoir violé la Constitution en utilisant des fonds publics pour la rénovation de sa résidence privée. Le tribunal lui a ordonné de rembourser l'argent. Jacques Aristide.
Les réactions n'ont pas tardé. L'opposition sud-africaine a immédiatement appelé à la démission de Jacob Zuma, empêtré dans plusieurs scandales. Par la même occasion, des parlementaires ont annoncé une procédure de destitution qui a cependant peu de chances d'aboutir, d'après l'AFP. La ferme Kandla, du nom de la luxueuse propriété en pays Zoulou du président Zuma, remonte à 2009. L'État avait alors payé 246 millions de randes, environ 15 millions de dollars, officiellement pour améliorer la sécurité de la résidence privée du président. Les travaux incluaient notamment la construction d'une piscine, d'un poulailler, d'un enclos pour le bétail, d'un amphithéâtre et d'un centre d'accueil des visiteurs. C'est tout cela justement que la Cour constitutionnelle lui réclame de rembourser. Il revient désormais au Trésor sud-africain de déterminer la somme à restituer.
En Centrafrique, les électeurs se sont rendus aux urnes ce jeudi pour le second tour des législatives. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais avec une très faible participation des électeurs. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Ce scrutin aura été celui qui a mobilisé le moins d'électeurs depuis le référendum du 13 décembre de l'an dernier. 85 sièges sont à pourvoir au Parlement. En dehors de quelques difficultés liées à l'ouverture un peu tardive de certains bureaux de vote, les opérations se sont déroulées dans le calme à Bangui et à l'intérieur du pays. Certains électeurs expliquent n'avoir pas l'intention de voter pour la simple raison que leurs candidats ne font plus partie de la course. D'autres pensent par contre que le plus important était le scrutin présidentiel. Des observateurs électoraux déployés sur le terrain ont noté une nette amélioration dans l'organisation du vote. Rappelons que 45 députés sont déjà élus au premier tour du 14 février, alors que le vote a été annulé par la Cour constitutionnelle de transition dans 10 circonscriptions de Bangui et des provinces. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, 4 ONG dont Amnesty International dénonce les arrestations d'opposants politiques depuis le scrutin présidentiel qui s'est soldé par la réélection du président Denis Sassou Nguesso dès le premier tour. Les groupes en question demandent la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées pour leurs convictions politiques. Plus de précisions avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Le communiqué conjoint de Amnesty International et 3 ONG locales, l'OCDH, la RDPH et la DUC, énumère une dizaine d'opposants politiques arrêtés après l'élection présidentielle du 20 mars. C'est plus dans le camp de Jean-Marie Michel Mokoko et celui de André Okombi-Salissa que s'opèrent ces arrestations. Le directeur exécutif de l'OCDH, Trésor Ndila Kende, parle lui d'une cinquantaine de détenus politiques déjà à la DGST, exprimant ainsi sa vive préoccupation.
L'arrestation et la détention des personnes impliquées dans des manifestations pacifiques est une grave violation du droit à la liberté d'expression et des réunions pacifiques. Alors, toute personne détenue sur cette base doit être immédiatement libérée. Hier, il y a eu l'interpellation de Madame Issami, qui est vice-présidente du comité des femmes de la CIADD. Elle était interpellée au commissariat de Kibeliba. Sur les griefs, les motifs de l'interpellation, aucune mention dans la main courante. Inadmissible dans un état de droit. On risque de créer un chaos total. Et si ce chaos s'installe dans le pays, quelle est la suite? Ce sont les droits humains qui en pâtissent.
Megson Anima, un autre défenseur des droits de l'homme, s'interroge sur le type d'infraction qui puisse justifier aujourd'hui cette vague d'arrestations dans le milieu de l'opposition.
C'est que le fait d'exprimer une opinion différente de celle de ceux qui sont au pouvoir n'est pas une infraction. Au sens du code pénal, je ne sais pas c'est quelle infraction, mais malheureusement la police qui est devenue un instrument d'un camp, personne n'a été capable de dire sur la base de quel article du code pénal on a interpellé un tel ou un tel. Moi, je pense que jusque-là, c'est des délits d'opinion.
Mais les responsables de la police sauront-ils écouter ces 4 ONG? De nombreux Brazzavillois sont pessimistes, malgré la détermination ici de Claude-Evi Wenadio, responsable juridique à la DUC.
Nous constatons, nous les défenseurs des droits de l'homme, qu'il y a des arrestations arbitraires qui se font ici au Congo. Et donc lorsque nous dénonçons ce genre de choses, nous espérons que nous ne le faisons pas en vague et que nous ne le disons directement aux autorités. Et ces autorités sont des personnes et ils savent qu'il y a des droits à respecter et je pense qu'ils pourront peut-être faire quelque chose.
On a constaté depuis ce matin le dispositif policier se desserrer dans les quartiers sud de Brazzaville, siège de la contestation électorale. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Et pour terminer, en Turquie, l'armée turque a catégoriquement démenti aujourd'hui avoir toute velléité de coup d'État pour chasser du pouvoir le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan, dénoncé pour sa dérive autoritaire, comme l'ont affirmé certains médias étrangers. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.